Bonjour à chacun, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver après une si longue absence. Alors c'est moi qui étais absent pendant longtemps. Hein. Je suis très heureux de vous revoir et de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur ces dernières semaines. C'est toujours un défi au fond de parler à ses frères et sœurs. C'est un défi, c'est une responsabilité. Et voilà, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. Et je vous propose de commencer en lisant quelques versets dans l'épître de Jean. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Qui a envie d'être aimé? Vous vous souvenez de ce film? Moi, je l'ai beaucoup aimé, le film. Mais c'est un titre curieux, insolite. Alors, c'est un film, pour rappel, hein, de Anne Giaferi, en 2010. Et ce film raconte l'expérience de son mari, Thierry Bizot. Alors, ça ne vous dira peut-être rien, mais Thierry Bizot a découvert petit à petit Jésus-Christ, alors que rien ne le prédisposait à cela. C'est un écrivain. Et en fait, il a découvert grâce à l'invitation d'un professeur d'un de ses enfants qui avait quelques difficultés, qu'il a invité à suivre un parcours alpha. Alors, c'est un beau film parce qu'il raconte une expérience de vie qui est belle. Mais le titre m'a toujours trouvé étrange. Qui a envie d'être aimé? Ben moi, pas vous. Et je trouve que c'est une question tellement évidente. On a tous besoin d'être aimé. N'est-ce pas un des besoins essentiels à tout être humain? L'amour de notre mère, l'amour de nos parents nous a tous marqués. Et à l'inverse, l'absence d'amour a des conséquences lourdes. Les psychiatres ont mis en évidence les troubles graves des enfants privés de tendresse, d'affection. Un enfant qui n'a pas été aimé de ses parents, ou pire, un enfant battu, garde ce traumatisme toute son existence. Et le sentiment de ne pas avoir été voulu par ses parents a aussi des conséquences. Ça peut perturber jusque dans la vieillesse. Que dire du sentiment plus courant d'avoir été négligé, de ne pas avoir été le préféré dans sa famille? On peut souffrir longtemps de ce sentiment-là. Et vous savez que ça a des conséquences importantes sur les fratries, sur les relations entre frères et sœurs. C'est pour ça que je vous parle de ça, c'est parce que j'ai passé un mois en famille quasiment. Avec ma famille, avec la famille de Sylvie. Ben oui, on le voit, mais c'est incroyable. Comment nous sommes conditionnés par la façon dont nous nous sommes sentis aimés. Ce n'est pas forcément que nous n'avons pas été aimés, mais nous ne nous sommes peut-être pas sentis aimés autant que celui-ci ou que celle-là. Voilà. Et alors c'est parfois complètement indépendant des parents d'ailleurs. Hein. Ça peut être simplement qu'un des frères et sœurs occupait plus d'espace ou prenait plus de temps pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça peut être un enfant handicapé, un enfant qui avait plus de soucis à l'école, et donc les parents s'intéressent davantage à lui. Et alors les autres sont frustrés. Alors ça évoque sans doute pour vous aussi des choses. En tous les cas, nous avons tous besoin d'affection. Nous avons tous besoin d'être aimés. Et nous savons que ce sentiment est essentiel pour notre équilibre. Nous avons tous besoin d'être appréciés pour ce qu'on est, d'être compris, d'être accepté malgré nos défauts, parce qu'évidemment, on a des défauts. Et si nous sommes ainsi assoiffés d'amour, vous le savez bien, c'est parce que Dieu nous a fait ainsi. Il nous a créé des êtres relationnels. Il nous a créé pour une vie de relation avec les autres et aussi pour une vie de relation avec lui-même. La Bible, ce livre si ancien, mais toujours actuel, qui nous donne les clés d'une vie épanouie. Ce livre est parfois comparé à une lettre d'amour écrite par Dieu. Lors de la création du premier couple, l'homme Adam voit venir sa femme, Ève, et s'écrie « Voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Oui, la Bible nous parle d'un Dieu qui a créé l'homme et la femme pour être en relation entre eux et pour être en relation avec Dieu lui-même. 66 livres et une quarantaine d'auteurs différents qui s'étalent sur une période qui va de l'Antiquité au 1er siècle après Jésus-Christ. Et chacun exprime dans son contexte particulier, avec sa personnalité propre, la façon dont Dieu l'a aimé, l'appel qu'il a reçu de Dieu, et cet appel qu'il renvoie à toute l'humanité. Oui, cette longue lettre nous raconte comment Dieu a d'abord choisi un homme, Abraham, comment il a choisi un peuple, Israël, pour se faire connaître à l'ensemble de l'humanité. Et il a touché le cœur de nombreux messagers qui sont devenus ses porte-paroles. Ses porte-paroles, qu'on appelle les prophètes. Et puis il a envoyé son fils Jésus-Christ, celui dont il est dit que la grâce et la vérité viennent par lui. Alors des images très belles nous parlent de l'amour de Dieu. L'image de l'amour maternel, un des porte-paroles de Dieu dit à son peuple, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Et c'est sans doute par Jésus que nous percevons le mieux cet amour de Dieu pour nous. Jésus, son attention pour les gens, sa disponibilité, son souci pour les nécessiteux. Mais on perçoit aussi cet amour dans de belles paraboles qui nous transmettent cet amour de Dieu. Ces paraboles que vous connaissez, comme celle du fils prodigue, celle de la brebis perdue. Mais avant de chercher à mieux comprendre et mieux connaître la nature de l'amour de Dieu, je voudrais dissiper un grand malentendu. Parce qu'en rapport d'amour, en termes d'amour, il y a vraiment un grand malentendu. Parfois dans notre esprit, mais en tous les cas autour de nous et dans la société dans laquelle on vit. Il y a des malentendus sur ce qu'est l'amour et il y a des malentendus sur ce qu'est l'amour de Dieu. Nous vivons une époque curieuse où d'une part, la fidélité dans l'amour est critiquée comme étant ringarde, complètement ringarde, empêchant les conjoints de s'épanouir. Mais d'autre part, si vous regardez bien autour de vous, si vous lisez des articles et des livres, vous vous apercevez que les gens gardent une aspiration romantique qui fait qu'ils espèrent trouver le conjoint idéal avec qui ils passeront toute leur vie. Toute leur vie, c'est ça, l'amour pour les gens autour de nous. Le problème, c'est que ce conjoint-là, on ne le trouve pas. Ben oui, il n'existe pas. Le conjoint idéal, il n'existe pas. Attention, hein, je prends des risques en disant ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Voilà, voilà. Mais je veux bien m'engager sur ce sujet-là, qui est un sujet complètement annexe. Il n'existe pas, donc on ne se marie pas. On se marie rarement, plus difficilement, plus tard. Alors il y a d'autres raisons, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même un malentendu sur l'amour, là. Amour fidèle, ok, ou amour qui permet de s'épanouir, qui favorise l'ego, la personne elle-même, amour qui se donne aux autres, ou amour qui s'intéresse essentiellement à soi-même. Écoutez ce mot simple que vous avez sans doute déjà prononcé, enfin j'espère, enfin si vous êtes marié, Je t'aime, mon amour. Quoi de plus beau ? Je t'aime, mon amour. Ça, c'est extraordinaire, ça. Bon, c'est d'une banalité, bon. OK, mais c'est quand même très beau. C'est vrai, soyons. Alors, voilà, que peuvent se dire les amoureux ? Oui, mais alors, ça peut recouvrir beaucoup de choses, là, derrière. Il peut y avoir beaucoup de choses derrière. Je t'aime, mon amour, ça veut dire qu'on a besoin d'un service, par exemple. Enfin, c'est dans le couple, hein, voilà. Vous avez déjà décrypté ce genre de message ? Voilà. On a besoin qu'il aille faire les courses, qu'il fasse quelque chose, etc. Ça peut être pire que ça, ça peut être une tentative de profiter de l'autre, voire de l'exploiter. Voilà, je t'aime, mon amour, ça peut cacher beaucoup de choses, vous le savez bien. Vous savez que aimer, ça peut être désirer. Je te désire, je te veux, ça devient, voilà, une pression. Je te veux pour moi, mon service. Ok, je t'aime, oui, d'accord. Bon. Il y a aussi le aimer au sens de je t'aime bien. Ouais, je t'aime bien. Bon. Bon, ça peut être très bien, c'est l'amitié, je t'aime bien. Et puis il y a le aimer dans le sens plus profond, aimer, je veux tout faire pour t'aider. C'est ça l'amour véritable. Je veux tout faire pour te rendre heureux. Tu comptes pour moi. Je t'aime. Le vrai amour, c'est bien sûr l'amour qui veut le bonheur de l'autre. C'est pourquoi, si je fais ce détour, c'est pour vous dire que l'amour, ce n'est pas l'amour à l'eau de rose. Ce n'est pas l'amour, on va dire, un peu sentimental. Ce n'est pas un amour qui passe sur tout. Ce n'est pas un amour qui fait aucun reproche ou qui n'ose pas affronter la vérité. Ce n'est pas ça, le vrai amour. L'amour ne peut pas être indifférent à l'être aimé. Prenons un exemple. Si votre propre enfant, l'amour des parents pour les enfants, si votre propre enfant est influencé par de mauvaises compagnies, attention, il retourne à l'école. Bon, ce n'est pas forcément à l'école qu'il y a de mauvaises compagnies, bien sûr, je suis professeur, vous le savez. S'il est influencé par de mauvaises compagnies, s'il commence, pire, à s'adonner à l'alcool, à boire un peu trop de bière, ça commence comme ça, vous savez, hein. Ou bien, pire, à la drogue, évidemment. Si vous l'aimez, bah évidemment, vous allez réagir. Vous allez peut-être lui interdire certaines fréquentations, c'est dur hein, d'interdire. Ou s'il est grand, bah vous allez lui conseiller fortement de se reprendre en main, de faire attention. Bien sûr, mais c'est par amour que vous allez lui dire. Il ne va peut-être pas le ressentir comme ça, mais c'est de l'amour, c'est parce que vous voulez son bien. Dans le domaine conjugal, c'est la même chose. On sait qu'il vaut mieux affronter ensemble les problèmes plutôt que de les occulter. On sait bien que l'amour exige la vérité. On sait bien que cacher quelque chose à son conjoint risque de nous amener à un conflit grave quand il découvrira la vérité. Oui, aimer n'est pas être faible. Aimer n'est pas être naïf. C'est pas fermer les yeux sur les risques pris par la personne qu'on aime. Et l'amour de Dieu, je reviens à l'amour de Dieu, oui, il est parfois aussi pris comme ça, comme un amour naïf, un amour mièvre. Celui d'un Dieu lointain qui aime tout le monde et qui ne demande rien en retour. Si Dieu existe, il doit aimer tout le monde, pense-t-on. Le plus étonnant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, c'est que ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu qui ont la prétention de dire comment Dieu devrait être. Ce sont les agnostiques, ceux qui ne se prononcent pas. « Oh, bon, ben, je ne sais pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas, je ne me prononce pas. Okay. » Mais c'est eux qui pensent que Dieu devrait être comme ceci. « Ah ben si Dieu existe, il est forcément amour. Si Dieu existe, il peut condamner personne, ce n'est pas possible. » Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu tendance, et l'humanité a toujours eu tendance à se faire un Dieu à son image. C'est le Dieu qu'on s'invente, c'est le Dieu qui ne nous dérange pas, c'est le Dieu qui nous conviendrait. Et c'est les gens qui ne croient pas qui nous font la leçon. Vous avez remarqué ? Comment ? Dieu, mais il ne peut pas être comme ça, mais ce n'est pas possible. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Ben, ils imaginent un Dieu à leur façon. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à eux de décider qui est Dieu et comment est Dieu. Quelle prétention ! On verra tout à l'heure, dans un tout petit moment, que ce que nous apprenons dans la Bible est effectivement complètement inimaginable. C'est complètement hors de notre portée. On n'aurait pas pu l'imaginer. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la façon dont on parle de Dieu autour de nous. C'est pour ça qu'on a besoin de se préparer à parler de Dieu, à témoigner de Dieu autour de nous. Dans la deuxième partie de la Bible, qui raconte la vie de Jésus, nous trouvons les plus belles pages, je vous l'ai dit, sur l'amour de Dieu. Je vais revenir sur cette parabole du fils prodigue. Surtout parce que Christophe Payan nous en a parlé juste avant les vacances, je crois au mois de juin. Et effectivement, il a eu de très belles paroles là-dessus. En résumé, cette parabole raconte la vie d'un père qui accepte de satisfaire l'exigence d'un de ses fils qui lui réclame carrément sa part d'héritage. Un de ses fils qui lui dit « Ah, donne-moi ma part d'héritage ». Le père, il n'est pas mort, le père, il est bien là, mais il réclame sa part d'héritage. Mais le père la lui donne. Le fils va mener grande vie, il gaspille tout, et puis après, il va retourner chez son père et il va lui demander de l'aide. Et le père lui tend les bras, et le père l'accueille. Et tu le vaugras, il fait la fête. Mais qui est ce père ? J'aimais bien cette question de Christophe qui nous dit, mais qui est ce père ? Qui est ce père ? C'est inimaginable. Qui est ce père qui accepte d'être traité de la sorte ? Qui accepte de pardonner à ce fils ? De faire la fête à son retour ? Ce père, c'est celui qui accepte de prendre sur lui la révolte de son fils, d'éponger sa dette et de lui pardonner. Ce père, c'est Dieu. Oui, l'amour de Dieu est un amour qui nous dépasse infiniment. L'amour de Dieu est un amour qui ne se compte pas de mots, de discours. C'est un amour qui se manifeste, qui se démontre, qui se prouve. Dieu nous a donné des preuves d'amour à la puissance infinie. Dieu nous a donné des preuves d'amour à la puissance infinie. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime, avons-nous lu tout à l'heure. Voici comment Dieu nous a manifesté, démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Et puis plus loin, pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. La première partie, ça nous convient bien, mais la deuxième est un peu plus compliquée à accepter. Il est question, à la fin du texte qu'on a lu, du sacrifice pour les péchés, il est même question de la colère de Dieu, mais comment comprendre ces paroles ? Comment comprendre que Dieu nous aime autant qu'il a donné son Fils et en même temps qu'il était en colère contre le péché, contre nous ? Revenons à ce fils prodigue qui a dilapidé l'héritage. L'affaire était grave. La révolte de ce fils n'est pas sans conséquence. Moitié de l'héritage, dilapidé. Le père qui a dû éponger la dette. Le discrédit jeté sur toute la famille. Ce n'est bien sûr qu'une image de notre réalité humaine. Mais est-ce que ce n'est pas une belle image de ce que nous sommes, dans notre tentation de vivre sans Dieu, de façon autonome, indépendante, de vivre à notre guise ? Dieu a vu que nous allions dans le mur. Dieu a vu que l'homme allait dans le mur. Que sa révolte, cette révolte, la révolte de l'homme, ne pouvait le conduire qu'à sa perte. Et regardons le monde tel qu'il est. Certes, on y voit de belles initiatives heureuses. Certes, on y voit des réconciliations qui sont autant de marques d'amour de Dieu. Mais on voit également tellement de violence dans le monde. Et je ne parle pas seulement de la violence des extrémistes. Je ne parle pas seulement des guerres avec leur cortège de victimes innocentes. Je pense aussi à la violence qui existe dans nos familles. Je pense à ceux avec qui nous avons coupé nos relations, peut-être, de ceux que nous ne supportons plus dans nos familles ou dans notre profession ou ailleurs. Je pense à ceux à qui nous ne parlons plus. Oui, l'humanité, en révolte contre Dieu, s'est mise sous la domination des forces de haine, de jalousie, d'égoïsme. Et c'est de cela que ce sacrifice de Jésus doit nous délivrer. Et c'est ce fardeau que Jésus a porté sur la croix. La colère de Dieu, dont parle ce texte, qui demandait réparation, s'est appliquée au mal qui gouverne le monde. Et la mission de Jésus a été de nous en délivrer. C'est ça, l'amour de Dieu. Ce que dit la Bible est tout à fait extraordinaire. Je vous le disais tout à l'heure. Nulle religion n'a eu cette intuition. Toutes les religions marquent la distance entre Dieu et l'homme, plus ou moins d'ailleurs, mais aucune ne parle d'un Dieu qui se fait homme pour payer la dette des hommes. Il n'y a pas longtemps, j'ai été bouleversé par un reportage que vous avez peut-être vu, mais vous connaissez peut-être déjà ce pèlerinage particulier. J'ai été frappé par ce pèlerinage de Kuala Lumpur en Malaisie. Peut-être que vous en avez entendu parler, aux grottes de Batu. On y voit des pèlerins qui tirent des chars grâce à des crochets métalliques qui sont plantés dans leur dos. Vous avez peut-être vu ça. On voit ça, on se dit, mais c'est pas possible. Alors c'est une fête particulière qui a lieu une fois par an, hein, qui exalte effectivement la souffrance, c'est l'hindouisme. Hein. Mais je me dis, mais quel Dieu demande cela? Quel Dieu demande cela? Quelle angoisse cette souffrance consentie, voulue par ces pèlerins-là, peut-elle traduire? Quelle violence contre son propre corps? D'autres pèlerinages sont moins cruels, mais dans toutes les religions, les hommes doivent se rendre acceptables devant Dieu. Par leurs pratiques, leurs efforts, il faut compenser le mal qu'ils font par ailleurs. Ils doivent se purifier eux-mêmes. Ah oui, nous sommes coupables de bien des fautes. Oui, nous pouvons être submergés par la culpabilité, par notre culpabilité, au point d'en venir à ces solutions extrêmes. Mais cela ne réglera rien. La Bible propose l'unique remède. Seule la Bible propose ce remède-là. C'est ce Dieu qui aime tant les hommes qu'il envoie son Fils en forme de lui-même pour qu'il meure à leur place et pour qu'il règle définitivement le problème du mal dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est un amour si fort que Jésus mourut sur la croix. C'est ainsi que Dieu a prouvé son amour pour nous. Cet amour nous communique la vie si nous y répondons. Et certains, ici peut-être, n'ont pas encore répondu à cet amour manifesté en Jésus. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire aujourd'hui. De prier simplement pour dire à Dieu que vous avez besoin de cet amour, que vous reconnaissez que vous l'avez méprisé jusqu'ici. Dites-lui que vous acceptez de vous remettre en question. Et je vous donnerai l'occasion de le faire tout à l'heure si vous ressentez cet appel au fond de votre cœur. Mais comme moi, vous avez peut-être accepté cet amour de Dieu depuis longtemps. Et il est bon alors pour nous de nous souvenir de toutes les marques d'amour que nous avons reçues de sa part. Il y a ce moment béni où nous lui avons confié notre vie, celui où nous lui avons consacré notre vie peut-être de façon plus particulière, mais aussi les signes que nous avons reçus tout au long de notre parcours de vie. Ce sont des expériences, des relations, des paroles, des regards échangés, des convictions qui se sont imposées suite à des moments de doute. Et je vous propose un temps de silence pour nous remémorer ces signes que nous avons reçus. Un temps de silence où nous pouvons aussi prier si nous voulons répondre à l'amour de Dieu, si nous avons entendu son appel.